Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinérama, donc émission de cinéma sur Divergence FM tous les mercredis à 12h30 et rediffusée tous les mercredis à 18h30. Comme Bruno l'a annoncé avant le générique, aujourd'hui ce sera consacré à l'événementiel. Alors on va parler de Festafilm, en effet, ça ce sera plutôt en deuxième partie d'émission. Mais surtout, nous allons faire un gros plan, un focus sur un autre événement, une programmation de films au cinéma Utopia qui a débuté le 15 novembre avec la projection du film Takeshi's de Takeshi Kitano et une programmation qui courra jusqu'en mai prochain. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Delphine Robic-Diaz. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes maître de conférences en études cinématographiques à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Vous avez rédigé une thèse sur le cinéma d'Indochine dans le cinéma français.
Oui, la guerre d'Indochine dans le cinéma français.
La guerre d'Indochine dans le cinéma français, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. On va s'intéresser donc à Ciné Campus. Alors, comment est née l'idée de cette programmation, de ce rendez-vous proposé chaque mardi c'est pas chaque mardi, c'est un mardi par mois à peu près jusqu'en mai prochain au cinéma Utopia. Comment est née cette initiative ?
Cette initiative, j'en suis pas responsable. J'ai repris le projet qui avait été initié par mon prédécesseur Jacques Choucroun il y a quelques années déjà. C'est dans le cadre d'un cours de fac. Voilà, on a estimé qu'il manquait de cours pratiques dans les enseignements universitaires et que initier les étudiants à la programmation en salle, c'était aussi une manière de venir les chercher là où ils étaient, c'est-à-dire les débusquer dans leur cinéphilie et dans leur envie de voir des films en salle, dans de bonnes conditions, parfois des films de patrimoine, des films anciens, des films qu'ils n'avaient sans doute jamais eu l'occasion de voir en salle, parce que tout simplement ils n'étaient pas nés à l'époque de leur sortie. Donc voilà, donc cette initiative, elle est née de cette envie-là de confronter les étudiants au cinéma, mais dans une autre approche que simplement de l'analyse de films ou voilà, du contenu un petit peu théorique comme on en fait d'habitude à la fac. Et puis moi, j'ai repris ce projet en septembre avec des étudiants tout neufs, les étudiants de licence 3 d'art du spectacle option cinéma de cette année. Et ensemble, ils sont 30, ensemble, nous avons conçu cette programmation autour d'une thématique qu'ils ont déterminée. C'est eux qui ont choisi la thématique, c'est eux qui ont choisi les films. Donc voilà, ils sont les grands ouvriers de ce projet et je n'en suis que le modeste maître d'œuvre.
Voilà, donc c'est à Utopia que ça se passe. Vous me disiez hors antenne que voilà, le projet Ciné Campus existe depuis plusieurs années, mais c'est vraiment la première année où ça débouche sur quelque chose de concret, où il y a vraiment, voilà, ça débouche sur une programmation, sur des séances avec des petites interventions avant, après. Il y a chaque séance a des intervenants qui viennent parler des films. Comment les étudiants ont travaillé en fait pour déjà mettre en place ces séances et puis pour contacter les intervenants?
Ben pour la mise en place des séances, ça a été un travail qui a été très agréable à mener avec eux. On s'est d'abord arrêté autour d'une thématique. Alors bon, je vous disais que c'était des étudiants de licence 3. Il faut avoir dans l'idée que ce sont des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Donc je ne vous cache pas que les thématiques qu'ils avaient décidé d'aborder, on a eu le choix sur la shortlist finale. On a eu le choix entre la nuit, le noir, le rêve, l'addiction, la mort. Vous voyez, c'est des thématiques très... très fin d'époque teenager, hein. On sentait qu'il y avait quelque chose qui les habitait, qui les tracassait, qu'ils voulaient voir projeté sur grand écran. Et bon, voilà, la thématique du rêve est finalement celle qui est sortie après vote démocratique du chapeau. Et puis après, le travail sur la programmation en elle-même, on a décidé de découper. On savait qu'on avait 8 séances, tout simplement parce qu'on est astreint à un rythme d'une projection par toutes les trois semaines. Il faut savoir qu'on ne projettera pas pendant les vacances universitaires, par exemple. Donc, ça limite d'autant plus les périodes sur lesquelles on peut être amené à projeter une séance ciné-campus. Donc, oui, on savait qu'on avait 8 dates. Et les 8 dates, on a décidé de faire des sous-thématiques autour du rêve. Donc, de décliner le rêve en une espèce de palette de 8 sous-thématiques autour du rêve, de 8 soirées à thème autour du rêve. Donc, il y a eu l'enfant confronté au rêve, il y a eu le fantasme, il y a eu le rêve américain. Voilà, il y a ce type de sous-thèmes qui sont sortis. Les étudiants se sont réunis par groupe et par groupe de 3 ou 4 étudiants. Ils ont décidé de travailler sur un thème en particulier. À partir de là, ils ont cherché des films et on en est arrivé par un certain nombre de filtres, dont en particulier la disponibilité des copies, à arrêter une liste définitive de 8 films qui composent maintenant la programmation telle qu'elle est annoncée.
Alors, ça colle bien à l'actualité puisque cet été est sorti Inception de Christopher Nolan. Donc un film de science-fiction qui explore le rêve, qui explore la manipulation des rêves aussi. Un film assez intéressant dont on a déjà parlé dans cette émission. Et parmi la programmation, parmi les films de la programmation, il y a un autre film de science-fiction. Je vous propose d'en écouter un petit extrait.
La Décémini, la clé scientifique qui ouvre la porte de nos rêves.
J'aurais jamais cru que c'était possible. Cet appareil est vraiment prodigieux.
À vrai dire, la Décémini n'est pas encore tout à fait au point. Quand elle sera au point, nous pourrons pénétrer éveillés dans les rêves des gens.
Pourquoi ont-ils tous mon visage? C'était vraiment troublant.
Là, tu es Tarzan. Et là, on se croirait dans un film d'espionnage. En tout cas, la scène de bagarre était très amusante. Les rêves du sommeil paradoxal que l'on fait à l'aube sont plutôt longs et donc plus faciles à analyser. Par exemple, si l'on compare les rêves que l'on fait la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal à des courts-métrages artistiques, les rêves matinaux font penser à des longs-métrages de divertissement.
Alors toi, tu serais une sorte d'actrice de film onirique.
Parce que tu n'aimes pas le cinéma ?
Si, j'ai rien contre.
Voilà un extrait de Paprika de Satoshi Kon, un film de 2005 qui sera projeté l'année prochaine, donc mardi 19 avril 2011. Le rêve ou les réalités virtuelles, c'est une des thématiques qu'on retrouve très souvent dans la science-fiction, dans le cyberpunk. Vous auriez pu dériver vers les réalités virtuelles justement avec des films comme Existence, comme Matrix, etc. Il n'y en a pas dans la sélection. Pourquoi vous avez éviter d'une certaine façon ce sujet, ou pourquoi vous avez choisi de ne pas mettre de film sur ce sujet, sur les réalités virtuelles dans la sélection?
C'est pas un choix qui m'est personnel, c'est simplement que dans le découpage en huit sous-thèmes que nous avons établis, il n'y a eu qu'un seul groupe qui a proposé un sous-thème sur les réalités parallèles, les réalités virtuelles. C'est le groupe qui s'occupe du film de la projection de Paprika. Donc voilà, et puis il nous a semblé aussi qu'au-delà du fait de varier les angles d'attaque autour du rêve, il fallait aussi varier les supports. Il fallait aussi varier les films, les genres des films en eux-mêmes. Donc voilà, donc tout d'un coup, un film d'animation, ça s'est imposé. On n'en a pas programmé 2, on en a programmé 1 sur 8, ce qui est déjà une bonne représentation du film d'animation dans une programmation. Et voilà, donc il nous a semblé évident que cette thématique du monde virtuel, elle était assez marginale dans leurs préoccupations. C'était pas quelque chose qui les attirait vers le rêve, et que si elle devait être abordée, elle le serait avec ce film d'animation qui pourrait couvrir cet aspect-là du champ.
Oui, parce que les films d'animation, alors moi, c'est un film qui fait pas partie de la programmation, mais quand je pense rêve et animation, je pense à Waking Life de Richard Linklater, donc réalisateur de Before Sunset, Before Sunrise, de A Scanner Darkly aussi, qui était sorti il y a 1 an ou 2. Voilà un film qui, pour le coup, était vraiment consacré au rêve. On sortait pas du rêve d'un personnage qu'on suivait tout le long, avec la décohérence ou le chaos que peut représenter un rêve qu'on explore. Un film un peu expérimental, un peu philosophique. Je vous conseille d'être plutôt bien réveillé si vous décidez de le voir. Il y avait un autre film également, Mind Game, un film japonais, un manga qui abordait aussi ce thème du rêve. Donc un film que je vous recommande. Mais mardi prochain, c'est un autre film, pas du tout un film d'animation, c'est le Labyrinthe de Pan qui nous est proposé donc dans cette programmation Ciné Campus. Un film de Guillermo del Toro, magnifique de poésie et d'imagination. Donc le réalisateur de Chronos et de L'Échine du Diable nous emmène faire un tour dans l'Espagne du milieu des années 40, en pleine dictature franquiste. Et dans cette Espagne franquiste, une petite fille va fuir la violence de ce monde pour un univers de fantaisie malsaine, où les mythes anciens se mélangent avec l'histoire en marche.
Écho !
Oh, c'est vous. Oh, c'est vous. Vous êtes revenu. N'ayez pas peur, je vous en prie. Regardez, regardez.
Moi, je m'appelle Ophélia. Qui tu es, toi ?
Moi, j'ai tellement de noms, moi, des noms anciens, que seuls peuvent prononcer le vent et les arbres, là. Je suis la montagne et la forêt et la terre. Je suis... Je suis un faune.
Voilà, donc un des personnages fantastiques que va rencontrer la jeune Ophélia dans ce film, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Vous parliez tout à l'heure de l'animation, de la diversité que le thème du rêve pouvait amener dans la sélection de films. Là, avec Le Labyrinthe de Pan, je trouve qu'on a un regard sur des effets spéciaux utilisés... justement utilisé avec talent, poésie. Et voilà, c'est un film qui est assez récent, que vous avez peut-être déjà vu au cinéma, mais qui mérite, à mon avis, une deuxième vision. Si vous voulez dire quelques mots sur ce film.
Oui, puis dire tout simplement quelque chose qui n'est pas annoncé dans le programme. Tout à l'heure, vous me parlez des intervenants autour des séances. Là, en l'occurrence, la séance du Labyrinthe de Pan sera accompagnée par une enseignante, une maître de conférence à l'université Paul Valéry, qui travaille en psychologie et qui est spécialiste des traumatismes de l'enfance. Voilà, une psychologue clinicienne qui viendra donc apporter un espèce de regard alternatif sur le cinéma, puisque ça ne sera pas une spécialiste de l'analyse de film qui viendra analyser pour la salle le film, ça sera une psychologue qui viendra donc interroger de sa discipline à elle, la psychologie, la représentation du rêve et du traumatisme enfantin qu'a porté à l'écran Guillermo del Toro. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on a essayé de mettre en place avec Ciné Campus, c'est de mettre en place plusieurs regards sur le cinéma. Ça nous intéressait.
Ouais,
voilà, ça nous intéressait pas que ça soit des spécialistes du cinéma qui viennent animer les débats de la salle, présenter le film et animer le débat de la salle. On voulait que ça soit des personnes qui aiment le film. Voilà, c'était le point de départ devait être le goût, qui aiment le film, qui a envie d'en parler, qui a envie d'en parler d'ailleurs, d'un autre point d'ancrage. Là, c'est la psychologie. Il va y avoir une thématique qui va être la thématique autour de Pleasantville, qui est une séance qui est programmée le 29 mars 2011. Ça va être animé par des associations qui travaillent avec des personnes en difficulté, qui vont se servir du cinéma comme un support de dialogue social et de dialogue avec des personnes en difficulté. Voilà, on essaye aussi de faire venir au cinéma des thématiques qui n'ont peut-être rien à voir avec l'esthétique du cinéma, et d'élargir en tout cas ce spectre-là. Donc là, en effet, ces films ont été choisis par goût. La beauté plastique du Labyrinthe de Pan n'est pas pour rien dans le fait qu'il était programmé, mais on a cherché aussi à aller l'interroger sous d'autres approches, par d'autres angles et avec d'autres outils que la simple analyse de film.
Parce que le Labyrinthe de Pan, c'est un peu une plongée aussi dans la psychologie de cette petite fille, comme c'était aussi le cas dans Tideland de Terry Gilliam, qui était sorti à quelques mois d'écart. Et on pouvait rapprocher ces deux films, d'ailleurs, c'était assez intéressant, Tideland, le film de Gilliam. Alors on va basculer, on va continuer cette exploration dans la programmation, et on va basculer encore un peu plus dans le cauchemar, avec un film rare et génial, à mon avis. Il s'agit de L'Échelle de Jacob, d'Adrian Lyne.
Voilà, d'abord je me fais arrêter, tu vois. J'ai fabriqué le LSD du siècle et les flics me cravatent. Je me dis que je vais en prendre pour 20 ans, si j'ai du bol. Ça, c'était en 68.
Ça fait longtemps.
T'as raison. Alors, bref, je me retrouve en tôle à Rikers Island, l'horreur. Tu connais? Bon, tout d'un coup, on me sort de ma cellule, tu sais. Et les flics me collent dans une sorte de parloir où il y a des grosses vitres comme dans les banques. Je vois quatre mecs en uniforme avec des médailles de la tête au cul, c'était des colonels. Il y en a un qui me dit que si je vais au Vietnam pendant 2 ans, pas au fond, mais juste pour bosser dans un labo, alors on passera l'éponge et mon affaire sera enterrée. Moi, j'étais bouclé depuis la veille. Je me disais que le Vietnam, ça pouvait pas être pire que ça.
Là, t'as fait une erreur.
T'as raison, mais il me tenait par les poils. Et aussi c'est que je me retrouve à Saigon, dans un labo top secret où on travaille sur des drogues de synthèse qui te bousculent le crâne. Pas de la poudre pour écolier. Notre boulot, c'était d'isoler des propriétés spécifiques, celles qui te rendent méchant. Tu piges? Ils voulaient un produit qui décuplerait les tendances agressives. Parce qu'ils se posaient des questions. Ils avaient peur que vous soyez trop ramollo, pas assez combatif. Alors ils voulaient un truc capable de vous secouer, de vous foutre en rogne, tu vois? Faire sortir la haine. Et on a trouvé la drogue la plus puissante que j'ai jamais vue. Même un mauvais trip, et crois-moi, j'en ai eu ma part, c'est rien à côté de la violence de l'échelle.
L'échelle?
Ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Avec l'échelle, tu descends tout droit dans la terreur primaire, dans la rage meurtrière. C'est pas de la blague, c'était une bombe. Et j'ai pas besoin de te raconter, toi tu connais. On l'a expérimenté sur des chimpanzés. Ça a marché. Ils se fracassaient le crâne les uns les autres. Ils s'arrachaient les cieux, ils se bouffaient la queue. L'armée était ravie. Et on nous a fait essayer sur des viettes.
Voilà, une des nombreuses explications dans ce film, L'échelle de Jacob, qui est un trip. Voilà, on a parlé de la science-fiction, de la mythologie qui vient percuter la réalité avec le labyrinthe de Pan. Là, c'est la drogue, c'est une des explications proposées par Adrian Lyne dans cette descente aux enfers que va vivre le personnage de Jacob, voilà, interprété par Tim Robbins. Un film qui parle de la guerre du Vietnam. Voilà, Tim Robbins joue un vétéran de la guerre du Vietnam qui a des flashs du conflit, dont la réalité se délite un petit peu et qui, voilà, qui va chercher à comprendre pourquoi ben, son monde est en train de s'écrouler, en train de tomber en poussière. Pour revenir alors rapidement sur la thématique donc, du rêve, qu'on a vu, c'est large. On peut aller de la science-fiction au traumatisme de guerre, etc. Mais bon, le rêve de tout temps, ça a inspiré les réalisateurs. Dès que le cinéma est passé de simple invention technique entre les mains des frères Lumière en véritable outil au service de l'art avec Georges Méliès, le rêve est vite devenu un prétexte et un parfait champ d'exploration pour l'imagination des premiers cinéastes. Rien que pour Méliès, j'ai remarqué que voilà, dans ces centaines de très courts-métrages qu'il a pu faire, il y en avait beaucoup qui rejoignaient cette thématique. Par exemple, le rêve du pauvre en 1898, rêve d'artiste, le rêve du Raja, le rêve de Noël, le rêve du paria, le rêve du maître de ballet, le rêve de l'horloger, le rêve d'un fumeur d'opium, etc. Il y a énormément de films de Méliès qui utilisent justement cette thématique du rêve pour faire naître à l'écran des univers un peu particuliers, sortir un peu de la réalité. Donc, justement, dans ces grands classiques du cinéma, alors c'est un peu plus jeune que Georges Méliès, il y a mardi 15 février la projection du Magicien d'Oz de Victor Fleming. Alors là, c'est un des très très grands classiques de l'histoire du cinéma. Pourquoi alors ce film-là? Pourquoi le Magicien d'Oz?
Parce que nous avions, enfin, il y avait un groupe d'étudiants qui voulaient absolument aborder le thème du rêve américain, mais justement sous un autre angle, d'un autre point de vue. Et la thématique du rêve qui rencontre celle du rêve américain, et ben, tout d'un coup, on arrive à des films comme Le Magicien d'Oz qui vont développer donc, cet univers parallèle. On n'est pas véritablement dans le virtuel au sens science-fiction comme on l'entend actuellement avec la thématique telle qu'elle est abordée à l'écran. On est dans un monde parallèle, un monde, voilà, où l'onirisme va tout d'un coup faire sens tant au point de vue du fond du film, de la narration du film, que de la forme et des éléments picturaux qui vont être portés à l'écran. Donc Le Magicien d'Oz, ça nous a semblé être un excellent choix pour illustrer la thématique du rêve américain, tout en restant vraiment dans la dominante rêve, onirisme qu'on avait déterminé tous ensemble. Donc voilà, mais vous parliez de Méliès, vous parliez tout à l'heure de Terry Gilliam. Par exemple, pour revenir sur Terry Gilliam, on a envisagé de programmer du Terry Gilliam, parce que les films de Terry Gilliam, c'était du pain béni pour une thématique comme le rêve. Malheureusement, il faut savoir que les films de Terry Gilliam ne sont pas disponibles. Bon, voilà, les copies ne sont pas disponibles, donc on a dû éliminer des choses comme les films de Terry Gilliam de fait, parce qu'on n'aurait pas pu obtenir les copies. On avait aussi pensé à des films burlesques. Vous parliez du cinéma des premiers temps. Nous, on avait envisagé Sherlock Junior de Buster Keaton, voilà, qui est vraiment aussi un film sur le rêve, sur cette manière dont l'écran se fait la projection des rêves du personnage, avec cette espèce de manière qu'a Buster Keaton de s'évader de sa propre enveloppe corporelle pour intégrer le monde du film dont il rêve. Ça non plus, la copie ne nous a pas été accessible. Donc on a fait des choix thématiques à l'intérieur de cette grande composante du rêve, et puis après on a fait des choix de raison, parce que certains films n'étaient pas disponibles et qu'on voulait respecter cette espèce de programme qu'on s'était fixé, avec un découpage très précis où on allait explorer la thématique de l'hallucination, du cauchemar, du rêve onirique, du rêve traumatique. Voilà, on avait toute cette gamme autour du rêve, on voulait absolument l'explorer et trouver une illustration à chaque fois. Parfois ce sont pas les films qui se sont présentés en premier à notre esprit, mais ce sont des films de toute façon dont on estime qu'ils ont totalement leur place dans une programmation sur le rêve et qu'on a très très grand plaisir à proposer au public maintenant.
Donc certains choix, oui, qui ont été dictés par la possibilité d'obtenir des copies en bon état pour pouvoir faire des projections correctes. Donc voilà, plutôt que d'emmener vos enfants voir Animaux et compagnie ou Gnoméo et Juliette en 3D le mardi 15 février 2011, je vous recommande de leur faire découvrir ce film avant qu'il soit trop vieux et qu'il ne jure plus que par les images de synthèse et les Transformers numériques. Alors, la dernière soirée de cette programmation qui se déroulera le mardi 10 mai 2011 sera un petit peu particulière. Alors, avant de vous laisser nous en parler, je vous propose d'écouter ça.
J'ai rembobiné la cassette plusieurs fois, il n'y a rien dessus.
Ah ouais ?
Cette cassette ne fonctionne pas.
La vôtre, ça donne ça ?
Mais regarde, il n'y a que de la neige sur toutes les bandes.
Ça vient de la télé, Mike.
Montre-moi ce que... Pourquoi elle fait ça?
Ça te fait pareil à toi?
Oh là là, attends, c'est quoi ton problème? Pourquoi ça fait ça quand tu fais ça?
T'es magnétisé! C'est toi qui effaces toutes les bandes! C'est à cause de toi!
Il faut qu'on trouve d'autres cassettes.
J'ai une meilleure idée. Viens, suis-moi.
Je vais te descendre! Et en karaté robot, j'ai peur de personne!
Nos films, c'est autre chose que des simples remakes.
Notre version est meilleure.
Notre version ne dure que 20 minutes.
Amateur.
Les gens ont envie de voir ces films.
Je suis mandaté pour procéder à la destruction de ces bandes. L'avertissement du FBI, ça apparaît avant chaque film.
Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces gens-là? Ils sont à l'aise dans tous les styles.
Vous en rêvez? On va le tourner.
Aux films qui ont du cœur. Et une âge.
Allez, cours comme le vent. File. Mike.
Alors non, Soyez sympa, rembobiné de Michel Gondry, dont c'était un extrait de la bande-annonce, ne passera pas dans la programmation Ciné-Campus. Alors pourquoi est-ce que j'ai passé cette petite bande-annonce?
Parce que nous avons décidé de clore ce cycle sur le rêve par une opération qui va s'intituler Soyez sympa, participez, Soyez sympa, réalisez. Et voilà, c'est un grand concours, un grand appel à création autour des films suédois. Ce qu'on appelle les films suédois, ce sont les films justement que tournent ces personnages de Soyez sympa, participez. Ces remakes faits maison, bricolés à la va-vite, faits avec énormément de second degré, beaucoup d'humour, de films cultes. Donc voilà, ce que nous vous proposons à travers le Ciné-Campus, c'est pour la dernière séance, le 10 mai, une projection de films suédois, de films qui vont être tournés par n'importe qui, par tout le monde, par vous peut-être, sur des séquences de films cultes que vous allez refaire à votre sauce, avec vos moyens, et que vous allez faire parvenir à l'équipe dans le cadre du TD qui s'occupe de cette programmation. Ils ont une adresse mail sur laquelle vous pouvez leur écrire pour avoir plus d'informations, pour connaître exactement les contraintes techniques qui sont imposées à ce type d'exercice. Donc je vais donner l'adresse mail. C'est film.sweded, donc je vous l'appelle film.sweded, gmail.com. Voilà, à cette adresse, vous aurez toutes les informations pour réaliser donc un film suédé à la manière de ce que font les personnages du film de Gondry, et sachant que les meilleurs de ces films suédés feront l'objet d'une projection publique à l'Utopia, là, dans la soirée du 10 mai 2011, voilà, avec une sélection donc des meilleurs films qui seront parvenus, avec pour thème « J'ai toujours rêvé de faire du cinéma », donc chacun sa chance.
Voilà, donc si vous avez des rouleaux de papier d'alu, vous pouvez réaliser un film suédé à partir de Robocop ou ce que vous voulez, libre à vous. Il n'y a pas besoin d'être étudiant pour...
Non, c'est ouvert à tout le monde.
Voilà, la seule contrainte, je crois, c'est 5 minutes.
5 minutes maximum, et que les films soient parvenus à cette adresse, l'adresse que je vous ai donnée, pour le 1er mars. Après, il y a des contraintes de qualité de l'image, bien sûr. On ne pourra pas se permettre de diffuser dans une salle comme l'Utopia, dans une salle de cinéma, des films qui n'auraient pas une qualité technique suffisante.
Voilà. Et une qualité d'interprétation, d'effets spéciaux, bien sûr.
Tous les Robocop sont les bienvenus, voilà. Mais à condition qu'ils jouent bien.
Il faut que ce soit irréprochable. Eh bien, merci beaucoup, Delphine Robic-Diaz, d'être venue nous présenter cette programmation Ciné Campus. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner soit sur le film, sur le site d'Utopia, où vous retrouverez donc les séances au coup par coup. Sinon, il existe un petit programme que vous avez édité qui reprend donc tous les films de la programmation. Pour nous quitter, je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande originale, d'un film dont on n'a pas parlé, Crash, de David Cronenberg, dont la projection sera le mardi 8 mars 2011. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
À bientôt. Voilà un extrait de la bande originale de Crash de David Cronenberg, une superbe bande originale signée Howard Shore. Voilà, ça c'est un des films donc, de la programmation Ciné Campus. La projection c'est mardi 8 mars à 2011 pour Crash de David Cronenberg. Et on va passer à un autre événement très important. J'accueille dans le studio trois invités. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors je vous laisse vous présenter peut-être.
Donc moi je suis Ferdinand Fortes, directeur du Festa Film, Festival Amadis du Film, rencontre internationale des caméras lusophones et francophones, dont la troisième édition se tiendra ce week-end à Montpellier.
Haute Chevalier-Baumel, réalisatrice et dernièrement d'un film documentaire intitulé Estrade sur les jeunes tués par balles à Rio. Et le film passera dans le cadre du festival Festa Film vendredi 3 décembre à 19h40.
Et Florent Robin, qu'on ne présente plus, qui s'occupe entre autres de Casamadis pour ce festival, qui s'occupe un peu des sous dans cette histoire, puisque je suis le trésorier.
Voilà, donc si on a des questions sur la finance, c'est à toi qu'on va s'adresser.
Absolument.
Alors, Ferdinand, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce festival ? C'est la troisième année, je ne me trompe, voilà, de Festa Film.
Alors le Festa Film est né d'un désir donc de créer une rencontre, un espace de rencontre entre la lusophonie et la francophonie. Et nous avons décidé, nous, que ça sera par le biais du cinéma, donc à Casa Amadis, et permettre aux jeunes réalisateurs et vidéastes du monde francophone et lusophone d'échanger, de se retrouver autour d'un objet commun qui est la caméra. Donc le Festa Film existe maintenant depuis 3 ans et porte ses fruits année après année. Et troisième édition cette année.
Voilà, donc la programmation se décompose en plusieurs sous-sections. Il y a compétition, il y a panorama. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça ?
Oui, alors pendant ces 3 jours, il y aura un peu plus de 40 courts-métrages proposés au public. Des courts-métrages français, portugais, brésiliens, québécois et belges. Et puis 2 films documentaires autour du Brésil. Un sur la capoeira et puis un autre sur les problèmes des morts par balle à Rio de Janeiro, dans les favelas à Rio de Janeiro, dont la réalisatrice d'ailleurs est dans le studio avec nous. Et puis 2 longs métrages donc de réalisateurs qu'on ne présente plus, hein, Manuel de Oliveira, avec la singularité d'une jeune fille blonde qui est sortie donc l'année dernière, et puis Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros, qui lui date de 2000 ans. Donc oui, la programmation sera, il y aura des courts-métrages compétition, donc internationale, et puis une compétition Languedoc-Roussillon, et puis Panorama Fenêtre Ouverte, qui sont tous les films qui étaient de très bonne facture, que nous avons reçus, et qui ne sont pas dans des compétitions, et qu'on souhaite projeter et présenter au public de Montpellier et des environs. Donc le vendredi, on commencera avec Estrade, donc à 19h40, un film documentaire de 82 minutes. Et puis juste après, il y aura donc la première session de compétition internationale avec à peu près 8 courts-métrages. Le samedi, on attaquera à 19h avec les compétitions internationales. Et puis il y aura aussi après la compétition Languedoc-Roussillon avec 8 films de la région en compétition. Il faut savoir que le samedi, on aura également un direct radiophonique réalisé par Divergence FM, donc au Centre Rabelais, à partir de midi, avec nos invités, les réalisateurs, les officiels, pour parler du festival, pour parler de la première journée, de la veille, voilà, faire le point un peu sur tout ça. Et puis une conférence qui sera donnée à 16h30, toujours le samedi, à 16h30, une conférence qui sera donnée par Rosangela Rocha, qui vient donc du Brésil et qui est directrice du Festival Ibéro-Américain de Sergipe, au nord du Brésil, mais qui est également secrétaire exécutif du Forum des festivals au Brésil et qui regroupe 80 festivals, qui donnera une conférence à 16h30 sur donc la diffusion du cinéma au Brésil. Et le vendredi, et le dimanche, donc le samedi en soirée, 21h45, là je vous fais tout le programme.
Singularité d'une jeune fille blonde.
Voilà, singularité d'une jeune fille blonde de Manuel d'Oliveira à 21h45. Et le lendemain, donc le dimanche, on a pensé au jeune public, on a pensé aux enfants. Donc à 15h, de 15 à 16h, il y aura des films d'animation, jeune public, en 3D et puis en 2D, je ne sais pas si ça se dit, en 3D et en 2D. Et puis après cela, il y aura également,
À nouveau du panorama.
Il y aura à nouveau du panorama, voilà, donc des films qu'on découvrira, qui ne sont pas en compétition. Et puis surtout, dimanche, il y a trois grands moments. Il y a la demi-heure avec Inns Bay, qui est une réalisation donc, d'un court-métrage de Bruno Brunery-Sylvain, donc un jeune Hérolté de 17 ans qui nous a fait une adaptation de Lovecraft, qui est très bien. Donc il passera à 18h et puis après Capitaine d'Avril de Maria de Medeiros et la remise des prix,
voilà,
par le jury.
Ça c'est 21h45 dimanche.
Voilà.
Alors avant de vous laisser nous présenter votre film, Aude, je vous propose d'écouter la bande-annonce du Festafilm.
Le Festafilm, festival Amadis du film, vous invite pour sa troisième édition les 3, 4 et 5 décembre 2010 au Centre Rabelais, esplanade Charles de Gaulle. Le Festafilm 2010, c'est la rencontre internationale des caméras lusophones et francophones, avec cette année 45 courts-métrages, 2 documentaires, 2 longs-métrages et 5 pays représentés. Pour plus d'informations sur la programmation et tous les tarifs du Festafilm 2010, www.festafilm.com. Le Festafilm 2010, les 3, 4 et 5 décembre, un bon plan Divergence FM.
Voilà, donc, bande-annonce de Festafilm. Pourquoi la musique du mépris dans ce...
La musique du mépris, alors, bonne question. Il faudra, parce que le réalisateur de cette bande-annonce n'est autre que Bruno... Hein, Bertrand, notre Bruno Bertrand,
voilà,
qui est de l'autre côté de la console. Alors, pourquoi le mépris ? Il faudra poser la question à Bruno.
Je posais la question pour la forme. C'est vrai que cette musique marche très bien.
Ça marche très bien. Il m'a fait écouter, je lui ai dit banco, c'est parfait, c'est nickel.
Donc, Aude, peut-être vous allez nous présenter votre documentaire. Donc, Estrada, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Donc, Estrada, qui est un film de 82 minutes sur la violence urbaine et sur ses victimes à Rio, qui sont des jeunes âgés, en règle générale, de 15 à 25 ans, qui sont noirs ou métis, habitants des favelas et des périphéries. C'est un film qui s'articule principalement autour de trois regards, trois approches. Premièrement, une approche... on va dire plus émotionnel, à travers la présentation de 5 familles carioca, donc de Rio, qui ont en commun la perte d'un enfant tué par arme à feu, donc une approche plus émotionnelle. En parallèle et entrecoupée, une approche plus explicative à travers les paroles d'acteurs sociaux à Rio, des hommes politiques, des chefs de la police, des juges, des avocats, des députés, des chanteurs, musiciens, beaucoup de gens engagés dans la lutte pour les droits de l'homme qui sont peu respectés à Rio. Et puis une troisième approche qui est en fait le portrait un peu fictif mais toujours réel d'un agent funéraire qui est la personne qui fait un peu le pont entre tous ces personnages du film, qui est la personne qui traverse la ville de Rio, qui nous montre la ville de Rio de long en large et qui transporte dans sa camionnette les cercueils et les corps des jeunes tués par balle.
Donc une plongée dans la violence ordinaire un peu de cette ville, une violence qu'on avait pu voir au cinéma avec des films comme La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et avec la série télévisée qui avait été tirée donc de ce film, La Cité des Hommes. Mm-hmm. Mais sauf que là, on est dans le réel, dans le documentaire.
Oui, et puis c'est quelque chose de très actuel aussi, je pense, par rapport à ce qu'on a comme retour de Rio en ce moment. Je ne sais pas si je peux m'étendre sur le sujet, si on a le temps. Voilà, par rapport à la volonté de l'État de reprendre ces favelas qui sont abandonnées depuis plus de 30 ans par des attaques armées, donc appuyées par la police militaire, l'armée, la marine. Voilà, donc on a ça en retour. Et peut-être que le film permettra d'éclaircir un peu la situation actuelle.
Voilà, donc ça, c'est vendredi 19h40. Voilà, donc salle Rabelais. Pour conclure sur le Festafilm, je vais rappeler juste les temps forts. Donc ce direct radiophonique samedi à midi.
Samedi à midi, c'est un direct donc par Divergence FM qui est partenaire du festival.
Depuis
la première année. Et il faut savoir que c'est un direct en public. Hein. Il est ouvert au public. Donc tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent venir, ils le peuvent.
Un petit mot sur les invités peut-être qui seront là.
Oui, alors pour les invités qui seront présents, donc il y a Rosangela Rocha qui viendra. Et puis malheureusement, on avait d'autres invités qui étaient prévus, des personnalités donc de l'audiovisuel au Brésil et qui travaillent notamment avec le ministère de la Culture. Mais suite aux élections qui ont eu lieu dernièrement, alors il y a un petit chamboulement, même si ça reste toujours dans la continuité de Lula. Il y a quand même des petits changements qui font que voilà, ils sont dans l'incertitude et étant dans l'incertitude de venir, ils ont préféré annuler et à remettre à leur venue pour l'année prochaine. Donc il y aura Rosangela Rocha du Brésil uniquement cette année. Il y aura également des réalisateurs qui viendront donc de Madrid, à Rodrigo Pepe, Adriana de Andrade du Portugal. Et il y aura également des représentants de la télévision portugaise qui viendront couvrir l'événement cette année.
Et il y aura aussi Madame Marie-Hélène Pivnik qui recevra la main d'honneur puisque le festival remet un prix à une personnalité tous les ans qui a beaucoup fait pour la connaissance mutuelle entre la lusophonie et la francophonie. Marie-Hélène Pivnik qui est traductrice, qui est professeure émérite à la Sorbonne et qui a traduit entre autres le roman dont est tiré le film de Manuel d'Oliveira, Singularité d'une jeune fille blonde, qui est un roman, une nouvelle au départ de Essa de Queiroz, qui a été traduit donc par Madame Pivnik.
D'ailleurs, c'est ce qui fait la particularité un peu du cinéma portugais. C'est que, et Manuel d'Oliveira en a une grande illustration, c'est que la plupart des films portugais sont des adaptations de romans, donc tirés directement de la littérature portugaise. Et c'est l'une des particularités de ce cinéma-là.
Alors, Singularité d'une jeune fille blonde, donc c'est samedi soir, 21h45, donc après deux séances de compétition internationale, puis compétition Languedoc. Le dimanche matin, tu l'as dit, c'est plus panorama jeune public, avec de l'animation en 2D, 3D, 4D, et, si on veut, ouais, voilà. Etc. 17h, donc Innsbay. Le court-métrage adapté de Lovecraft par un de nos cons citoyens.
Hérolte.
Puis Capitaine d'Avril à 19h30. Et enfin, 21h45, la remise des prix compétition internationale.
Voilà, qui sera remis par un jury donc, qui est composé de M. Jean-François Bourgeot, directeur du Cinémed et journaliste au Midi Libre. Monsieur Jean-Claude Fall, ancien donc directeur du Centre Dramatique National en sa qualité de metteur en scène. Monsieur Babacar Mbaye Fall, qui a rien à voir avec Monsieur Jean-Claude Fall, hein,
qui est un de ses comédiens,
qui a été l'un de ses comédiens et qui a interprété Othello, qui a interprété de grands personnages du théâtre. Et puis il y aura également Monsieur Didier Lannoy, qui est l'un des réalisateurs de Striptease. Et il y aura aussi Sylvana Conte, qui est journaliste brésilienne, et Monsieur Xavier Pékin, qui travaille avec le Cinémed, qui est administrateur au Théâtre du Hangar et qui bosse beaucoup avec le Ciné-Club Jean Vigo.
Voilà, donc c'est tout ce week-end. Ça commence vendredi 3 jusqu'à dimanche soir. C'était donc un petit regard sur ce Festafilm 2010, troisième édition. Oui.
Alors, juste une petite précision pour toutes les personnes qui viendront demain, vendredi 3. Alors, une info. Hein,
Après-demain.
J'y suis déjà. Après-demain. Alors, venez au Festafilm. La journée est à 5€ de projection. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez rester jusqu'à 11h du soir, après, il y a un concert au Baloir de Forum TV, de musique brésilienne. Et là, quand vous présenterez votre billet du festival, la place sera faite à 4€ au lieu de 7. Donc, Foroban TV donc, se produit, c'est une façon de dire que Foroban TV se produit à 23h15 au Baloir. Voilà.
Voilà, donc pour nous quitter, merci à vous trois d'être venus présenter le Festafilm. Pour nous quitter, je vous propose d'écouter un petit extrait qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est la lusophonie, si ce n'est le Brésil. C'est un extrait de la bande originale de Orfeo Negro de Marcel Camus, un film qui a reçu la Palme d'Or en 1959 et l'Oscar du meilleur film étranger en 1960. Une bande originale signée en partie par Antonio Carlos Jobim, mais là ce n'est pas le cas. La 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 Voilà, donc un extrait de la bande originale de Orfeo Negro de Marcel Camus. Je disais tout à l'heure Antonio Carlos Jobim avec la rota espagnole, sauf que voilà, c'est Jobim, m'a-t-on dit pendant le morceau. Mais là, c'était pas Jobim, il faudra vous renseigner pour avoir le nom de cet artiste qui a signé ce petit morceau de samba. Pour clôturer Cinérama, un petit regard sur les autres événements. Ça aura été une émission décidément consacrée intégralement aux événements. Alors, jeudi, demain, vous allez devoir faire appel à vos clones, puisqu'il y a pas moins de 4 événements. Donc, à 19h55, au Diagonale, vous avez une projection de Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo. Voilà, un classique de 1971. Une séance suivie d'un débat avec le centre Ascaso Durruti. Un lieu de rencontre et de culture libertaire, un tarif 5 euros, carte d'abonnement ou comité d'entreprise. Donc, 5 minutes plus tard, à la salle Rabelais, vous aurez une projection dans le cadre du ciné-club Jean Vigo, Les Amants Diaboliques de Luchino Visconti. Si vous n'avez jamais vu ce film, c'est l'occasion, donc un grand classique de 1942. En même temps, au Gaumont Comédie et en même temps au Gaumont Multiplex, vous avez deux avant-premières de Somewhere, le prochain film de Sofia Coppola, une nouvelle comédie dramatique qui raconte l'histoire de Johnny Marco, un auteur à la réputation sulfureuse qui vit à l'hôtel du château Marmont à Los Angeles et qui va recevoir la visite de sa fille de 11 ans. Donc la sortie nationale est prévue le 5 janvier 2011, mais vous pourrez le voir donc en VOSTF au Gaumont Comédie et en VF au Gaumont Multiplex, c'est demain à 20h. Demain à 20h, également au Gaumont Multiplex, là il faudra carrément vous dupliquer dans le même cinéma, vous avez une autre avant-première, Le Fils à Joe de Philippe Guillard, une comédie française sur le rugby avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal, la sortie prévue le 12 janvier 2011. Et puis vendredi commencera le Festa Film, donc sur tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, plein de choses. On peut rappeler peut-être le site internet pour avoir le programme détaillé.
Oui, alors pour avoir le programme détaillé, c'est www.festafilm.com. Festafilm.com.
Voilà, sinon, alors dimanche 5 à 11h, vous ne serez pas encore au Festa Film, mais vous ne serez peut-être pas non plus au Gaumont Multiplex pour l'avant-première du Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, c'est le troisième opus de cette franchise de fantasy, un gros film de Noël pour les nids-enfants. Ce sera en VF et en 3D dimanche 5 à 11h. Lundi 6 à 19h55 au Diagonale, vous avez Severne, La voix de nos enfants de Jean-Paul Jaude. Donc un film documentaire qui retrace un peu le parcours de Severne Cully Suzuki, une jeune fille de 12 ans en 1992 qui a interpellé les dirigeants du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. Et en 2009, elle a 29 ans, elle attend son premier enfant. Voilà, c'est un nouveau documentaire de Jean-Paul Jaude. Après, Nos enfants nous accuseront, que vous aviez peut-être vu au Diagonale il y a quelques temps. La séance sera suivie d'un débat avec le réalisateur et avec le collectif Attaque de Montpellier. Et j'en finis avec les événements de cette semaine, lundi 7 décembre à 20h15, alors j'ai dit lundi 6 et lundi 7, je ne sais plus, mais c'est le même lundi que Severne, La voix de nos enfants. Le Monde de Narnia à nouveau, une autre avant-première, ça sera au Royal en VF et en 3D. Voilà pour les événements de cette semaine. Et sinon, pour clôturer cette émission, une petite touche mélancolique, puisque deux grands noms du cinéma nous ont quittés la semaine passée. Leslie Nielsen, comédien, né en 1926 et mort dimanche à 84 ans. Leslie Nielsen, on l'a découvert avec Planète Interdite, un film de SF avec Robbie le Robot, un vieux film de 1956. Et puis, on l'a surtout connu pour les Y a-t-il un pour sauver ? Voilà, donc en 1980, y a-t-il un pilote dans l'avion ? En 88, y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Puis, y a-t-il un exorciste pour sauver le monde ? Y a-t-il un flic pour sauver le président ? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Etc. Il avait fini par se compromettre dans les Scary Movie 3 et 4 à la fin de sa carrière. Et voilà, Leslie Nielsen nous a quittés ce dimanche. Un autre, le deuxième grand nom du cinéma qui nous a quittés, c'était samedi à 87 ans. Il s'agit d'Irvin Kershner, alors ça vous dit peut-être pas grand-chose. Réalisateur des Yeux de Laura Mars, de Jamais plus jamais avec Sean Connery, de Robocop 2 avec Peter Weller et surtout, surtout de l'Empire Contre-Attaque. Le réalisateur de l'Empire Contre-Attaque nous a quittés. À la fin du générique, vous entendrez un petit extrait de ce film. Je vous remercie tous les trois de... Alors j'annonce, oui, Bruno me fait signe, j'annonce l'émission 24 notes secondes, émission consacrée à la musique de film qui sera dédiée aujourd'hui à Robert De Niro dans le cinéma, donc sans doute les bandes originales des films dans lesquels joue Robert De Niro. Ça c'est un peu plus tard, j'espère qu'on aura droit un peu de Liza Minnelli. Je vous remercie donc tous les trois, Aude, Ferdinand, Florent, merci d'être venus présenter le Festafilm et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cinérama avec Vincent Pourageau qui sera sans doute de retour. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luc, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Cinérama sur Divergence FM.
Non. Non. Ce n'est pas vrai.
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
Non !
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.